France Culture.
La conversation littéraire. Mathias Sénard.
Bonjour à toutes et bonjour à tous. Soyez les bienvenus dans notre conversation littéraire, une conversation littéraire consacrée aujourd'hui à Paris et sa banlieue. Paris, capitale de la France et du 19e siècle, ville de littérature s'il en est, entourée d'une banlieue qui ne le devient pas moins littéraire, la banlieue nord, la Seine-Saint-Denis, qui communique avec le 18e arrondissement de Paris par les portes de Clignancourt, de Saint-Ouen ou de Montmartre. Pour dessiner une géographie parisienne, j'ai la joie de recevoir aujourd'hui les écrivains Thomas Claire et Anne Weber et d'arpenter avec eux le 18e et le 93. Bonjour Anne Weber.
Bonjour.
Anne Weber, vous êtes écrivaine, romancière en allemand et en français, autrice de 11 romans, parmi lesquels « Chers oiseaux » en 2006, « Vaterland » en 2015, ou encore « Annette », une épopée qui vous a valu le Deutscher Buchpreis, un des prix les plus importants de langue allemande en 2020. Vous êtes aussi traductrice du français vers l'allemand et de l'allemand vers le français. Et il y a peu est paru aux éditions Philippe Ray, 9-3, roman itinérant, récit de voyage à pied en Seine-Saint-Denis, dans lequel vous arpentez la banlieue nord de Paris. Et bonjour Thomas Claire.
Bonjour.
Thomas Claire, vous êtes vous aussi écrivain, essayiste et auteur de fiction. Vous avez publié à la rentrée dernière, aux éditions de Minuit, le second volume d'un projet, en S1, vous allez nous en parler, consacré à la ville de Paris et intitulé Paris, musée du 21e siècle, dont le premier volume avait pour titre le 10e arrondissement et le dernier en date, le 18e arrondissement, est un projet d'épuisement peut-être d'un arrondissement de Paris, rue après rue. Première question à vous deux, Anne Weber et Thomas Claire. Est-ce que vous êtes parisien, au moins d'adoption peut-être, Anne Weber?
Alors, d'adoption, oui. De naissance, évidemment, non, puisque je suis née en Allemagne, près de Francfort, sur le Main. Mais je vis à Paris depuis 83.
83, oui, ça fait quand même quelques années.
Ça fait
années.
Un bail, oui.
Oui. Mais donc, vous vous considérez un peu comme parisienne. Est-ce que Paris fait partie non seulement de votre vie, bien sûr, quotidienne, mais aussi de votre vie littéraire?
On est toujours un peu ce que les autres voient en nous. Donc, pour les Allemands, c'est sûr que je suis parisienne. Pour un Parisien, c'est sûr que je ne suis pas parisienne.
Et vous, Thomas Claire?
Alors, moi, je suis un pur parisien, enfin, disons à 99%, puisque j'ai eu la chance ou la malchance, c'est selon, de naître à Neuilly-sur-Seine, où j'ai passé une semaine, donc, dans un hôpital, mais c'était il y a fort longtemps. Et sinon, j'ai toujours vécu à Paris. Je n'ai jamais quitté Paris, en fait. Alors, j'ai vécu, évidemment, dans différents quartiers. C'est vrai que je me sens très parisien, en ce sens que, voilà, c'est le décor, on pourrait dire presque naturel de mon enfance, et de ma vie, au fond, et de ma vie d'aujourd'hui. Voilà.
De votre vie et même de vos livres,
absolument,
en tout cas.
De certains de mes livres.
De certains
oui,
de vos livres, oui.
Tout à fait, oui.
Et, oui, parce que les autres, étrangement, ne sont pas placés dans un lieu.
Oui.
Pas
autant, parce que l'intérieur est quand même la description de mon appartement, donc j'ai quand même des obsessions quand même assez spatiales, mais je ne tiens pas à être un pur, descripteur de Paris. Enfin, je ne cherche pas à être simplement un spécialiste de Paris, mais disons que ça fait partie de mon obsession, on pourrait dire, pour l'espace.
Thomas Claire, ce qui frappe quand on entre dans Paris, musée du 21e siècle, volume 2, le 18e arrondissement, c'est le foisonnement, l'égarement, l'aspect touffu, imprévisible, comme si c'était un peu la ville elle-même dans toute sa diversité qui était devenue livre. Est-ce que c'était ça l'idée première, mettre Paris en bouteille ou Paris en livre?
Alors, de ce que vous dites, je retiens finalement cette notion de foisonnement. On pourrait penser à la jungle des villes, pour penser à un auteur allemand bien connu. Mais oui, disons que j'aime bien le côté finalement sauvage de la ville. Peut-être dans ce foisonnement, il y a une volonté de préserver cette dimension de sauvagerie, enfin de disons de nature exubérante, on pourrait dire peut-être, dans la mesure même où Paris évidemment est une ville qui n'a rien a priori de sauvage. Et j'aime bien lui donner une autre couleur que celle qu'elle a traditionnellement, qui est cette couleur grise et cette mesure finalement, on pourrait dire a priori d'une ville bien réglée. Alors j'ai cherché, notamment dans le 18e arrondissement, à contrecarrer un petit peu cette vision un peu de musée. Enfin, on en reparlera peut-être, mais voilà, j'aime donner à Paris et au quartier dans lequel je vis une espèce de, oui, enfin le terme de sauvagerie peut être un peu excessif, mais en tout cas un foisonnement, un débordement, et voilà, c'est-à-dire transformer un jardin à la française en jungle.
Alors le prodige du foisonnement, c'était déjà réalisé une fois dans le premier volume, le 10e arrondissement. Je ne sais pas si pour vous les deux sont liés, même s'ils n'ont pas forcément exactement la même facture. Le 10e arrondissement était certes moins volumineux, mais au moins aussi touffu. Et est-ce qu'il y a pour vous une différence première dans le projet entre le 10e et le 18e arrondissement, à l'heure d'écrire, je veux dire, au moment où vous mettez à écrire?
Oui, c'est-à-dire que le 18e par rapport au 10e est beaucoup plus, je pense, géographique, en ce sens que dans le 10e, j'avais adopté un ordre aléatoire qui était l'ordre alphabétique. Et donc, d'une certaine façon, il y avait un côté un peu conceptuel qui consistait à classer le 10e arrondissement par rue, mais les rues étaient classées par ordre alphabétique et non pas par, corrélation géographique. Dans le 18e, j'ai voulu changer un petit peu de méthode tout en conservant l'idée d'un épuisement, tout en conservant l'idée qui est un fantasme qui m'est propre de totalité, donc de décrire toutes les rues du 18e, mais là j'ai procédé vraiment de façon plus géographique, plus dans un territoire, dans l'exploration vraiment d'un territoire, et donc j'ai procédé en divisant les quartiers et en passant d'une rue à l'autre dans un secteur déterminé. C'est la différence entre les deux livres, je dirais.
Les deux sont exhaustifs, mais pas rangé de la même façon.
Voilà, exactement. Mais si vous voulez, ça procède quand même d'un désir d'exploration générale dont j'aimerais renouveler un peu à chaque fois la méthode pour chaque arrondissement, si j'arrive à décrire tous les arrondissements, ce qui est pratiquement impossible puisqu'il faudrait évidemment plusieurs vies pour cela. Mais j'aime bien l'idée de rester fidèle à cette dimension de quadrillage et en même temps de varier. Car je pense que la variation est quelque chose de très important pour un écrivain, ou la variété, je me définirais moi-même comme un écrivain de variété finalement, et donc de changer de méthode. Par exemple, j'aimerais bien décrire un arrondissement la nuit, ou décrire un arrondissement avec quelqu'un. Vous voyez, enfin, changer pour chaque arrondissement, trouver quelque chose qui permette d'introduire des variations dans le programme.
Bon, il faut dire que là, vous êtes attaqué à un arrondissement très grand.
Oui.
Le 18e arrondissement. Vous auriez mieux fait de commencer par le premier ou le second.
Tout à fait. Je voulais faire le second après le 10e. Je me suis dit, je vais faire le second. J'avais commencé le second puisqu'il vient en second. Mais bon, il se trouve que la règle de base, comme une règle en psychanalyse, on pourrait dire, c'est d'habiter dans le quartier que je décris. Je ne pourrais pas, si vous voulez, décrire un arrondissement dans lequel je ne vis pas. C'est pour ça que j'ai besoin d'une implantation, si on peut dire, pour être à la fois un explorateur qui fait partie du cadre et du décor, et en même temps quand même un petit peu extérieur, puisque je découvre un quartier qui est le mien. Il y a ce paradoxe, au fond, de redécouvrir un quartier qui est le mien. Mais je ne pourrais pas, si vous voulez, décrire vraiment un quartier dans lequel je ne vis pas. Ça me semblerait une sorte de tricherie, un petit peu.
D'ailleurs, Thomas Clerc, vous l'expliquez au début de Paris, musée du 21e siècle, le 18e arrondissement, vous sortez de chez vous. En réalité, vous avez déménagé, et donc le projet d'arpenter le 18e arrondissement vient de ce déménagement, et vous descendez, enfin vous sortez de chez vous, et vous dites, bon, par où je commence, quoi.
Tout à fait, je commence par ma rue, la rue Marc Séguin, qui est une rue tout à fait banale du quartier de la Chapelle, qui est l'un des quatre quartiers du 18e dans lequel j'habite. Il se trouve que je connaissais déjà le 18e quand j'étais enfant, puisque mes grands-parents, Clerc, habitaient rue Ramey. Et donc j'ai connu le 18e dans les années 70, la rue Ramey, qui était une rue petite bourgeoise, même assez populaire, et qui est devenue un petit peu maintenant, avec la gentrification, beaucoup plus bourgeoise. Donc, ça m'a intéressé aussi, je pense, de revenir dans un arrondissement que j'avais connu enfant, et dans lequel je vis maintenant une autre vie. Donc, il y a aussi cette histoire de, on pourrait dire, de millefeuille, il y a un côté millefeuille, c'est-à-dire que finalement, comme je vous l'ai dit, je suis parisien, donc forcément, il y a plusieurs strates qui viennent s'accumuler, et avec lesquels je joue, plusieurs éléments temporels au fond qui viennent s'enchevêtrer, que ce soit des éléments historiques ou personnels, et qui viennent introduire, je crois, une dialectique entre l'espace et le temps. Je suis un écrivain de l'espace, mais il y a aussi une temporalité qui est liée au fait que j'ai toujours vécu dans Paris.
C'est un projet que j'ai eu en 1969. J'ai décidé un jour de faire des descriptions de lieux à Paris, selon un protocole très, très précis. J'ai choisi 12 lieux qui qui étaient des lieux clés, disons, enfin des endroits où il m'était arrivé des choses particulières, enfin des événements plus marquants, disons. Et j'ai décidé d'aller sur place une fois par an dans un de ces lieux, exactement une fois par mois dans un de ces lieux, de manière à les couvrir tous en une année, et le même mois, d'écrire les souvenirs qui étaient rattachés à ces lieux. Et en choisissant ensuite un système de permutation qui faisait que je n'allais pas chaque mois dans le même lieu, je n'allais pas tous les mois de février dans le lieu où j'étais allé la première fois le mois de février, mais ça permutait de manière à ce que j'aille dans chaque lieu, dans chaque mois de l'année. Donc le projet devait durer 12 ans. Le premier, par exemple, où je suis allé, c'est le Carrefour Mabillon. Et je m'installais ou bien dans un café ou bien dans la rue, et je faisais une description que j'appelais dénotée, enfin en référence à ce que Barthes dit de la dénotation, c'est-à-dire ponctuelle, littérale, linéaire, de ce que je voyais. Alors je promenais mon regard comme ça en disant « je vois ceci, je vois cela, un autobus passe, etc. » Et une fois ce texte fait, je le mettais dans une enveloppe que je scellais avec un cachet à la scie. Je marquais dessus numéro 1, Mabillon. Et ensuite, le même mois, n'importe où, je faisais une évocation, alors cette fois-ci plus du tout dénotée, de tous les souvenirs qui se rattachaient à ce lieu. Et de la même façon, une fois que cette évocation était rédigée, je l'enfermais dans une enveloppe. Et mon propos était triple. Enfin, dans la manière dont je pouvais essayer de me le représenter, je me disais, bon, je vais entasser ces descriptions et ces souvenirs dans des enveloppes, un peu comme on fait ce qu'on appelle des bombes du temps. Et puis lorsque, dans 12 ans, en 1981, je vais ouvrir, je vais avoir, 488, dans ces 12 fois, j'en faisais 2 fois, j'en faisais 24 par an, 2 fois 12, pendant 12 ans, ça fait 12 fois 12, 144, 288 descriptions, 288 textes, dans lesquels j'aurai d'une part des descriptions de lieux qui auront bougé, parce que par exemple la rue Villain était en démolition, le carrefour Franklin Roosevelt, si j'avais continué à faire ce projet, l'immeuble du Figaro, un jour je l'aurais vu s'effondrer complètement. D'autre part, j'aurais l'évolution de mes souvenirs, qui n'auraient pas été tous les mêmes. Et troisièmement, j'aurais eu l'évolution de mon écriture, c'est-à-dire de ma propre relation à ces lieux.
Nous venons d'entendre Georges Perec s'entretenir avec Gérard Massé au micro d'Alain Weinstein en 1978. Voilà un projet assez démesuré, Thomas Clair.
Je suis battu.
Oui, mais en même temps, qui fonctionne un peu de la même façon. C'est-à-dire qu'il faut quand même une forme de méthode, néanmoins. On suppose que vous en avez une.
Oui. Là, ce qui me frappe en écoutant l'archive, c'est... Bon, on sait quand même que Perec n'a pas accompli ce projet. Ce projet est resté inachevé. Peut-être parce que il y a un très grand nombre de lieux de départ et qu'il le dit lui-même dans lieu, dans le texte qui est paru décrivant ce projet. Certains endroits qu'il avait choisis n'ont pas... il n'a pas trouvé finalement de véritable accord avec ces lieux. J'en parle notamment dans mon livre, puisqu'il veut décrire l'avenue Junot à un moment donné, qui est cette très belle avenue du 18e. Et il dit au fond, c'est un mauvais choix parce que je n'ai pas de souvenir perçant vis-à-vis de l'avenue Junot. Au fond, le projet ne prend pas toujours parce que le lieu ne lui apporte pas la nourriture qu'il pensait pouvoir en tirer. Mais l'aspect de méthode, bien sûr, alors moi je procède tout à fait différemment, puisque évidemment Perec est un maître, et ça je lui suis évidemment très redevable en un sens de mon rapport à la littérature. La différence fondamentale, je m'en explique souvent, c'est que Perec est un visuel essentiellement. Il parle de littérature dénotée, c'est assez étonnant. Alors que ma méthode, moi, consiste au contraire à prendre la rue comme un tableau, ou plus exactement comme une scène de théâtre, et donc d'exploiter la rue sous toutes ses facettes. Et donc, évidemment, c'est lié à la marche et à tout ce que j'avais appelé les performances, qui consiste à engager le corps de l'écrivain dans un certain nombre d'interactions avec autrui. Ça peut être la performance « J'aide mon prochain », par exemple, où je vais décider de venir en aide à quelqu'un qui n'arrive pas à sortir de sa voiture ou qui doit porter une caisse, etc. Et donc, à ce moment-là, je vais me mettre en fonction acteur, en quelque sorte, afin de pouvoir en tirer un récit. La performance peut surgir naturellement ou bien être réitérable artificiellement lorsque mon inspiration n'est pas très forte ce jour-là. Et donc je décris la rue, mais je ne fais pas que la décrire. Il y a un aspect visuel, bien sûr, qui est péréquien, mais il y a aussi un aspect, je dirais, performatif, au sens où je m'engage totalement dans la description et plutôt dans l'épreuve de la rue.
Mais dans les deux cas, c'est un arpentage qui est subjectif, c'est-à-dire que c'est un narrateur à la première personne. Il n'est pas du tout question de dénoter quoi que ce soit, au contraire.
Voilà.
Hein, c'est un narrateur à la première personne qui arpente Paris et on va même apprendre beaucoup sur ce narrateur. On sait par exemple les médicaments qu'il achète à la pharmacie, les changements de prénom de sa mère, de quelle façon il imite l'accent belge, par exemple.
Oui, tout à fait.
Est-ce que c'était pas aussi une forme d'autobiographie en habitant de Paris?
Absolument. C'est-à-dire que moi, j'ai une conception de la littérature qui est une conception foncièrement autobiographique. D'où mon rapport à Pérec, mais simplement c'est une autobiographie indirecte. C'est-à-dire, je fais toujours l'autobiographie indirecte, c'est-à-dire que j'ai besoin de parler de moi, non pas frontalement, mais par, disons, des espaces interposés, par des médiations, par des lieux, par du matériel. Il y a un livre qui m'a beaucoup marqué, c'était La vie matérielle de Duras, par exemple, où on peut parler de soi à travers l'alimentation, son frigidaire, l'immeuble qu'on habite, les relations qu'on a avec les uns et les autres. Donc, j'aime beaucoup l'autobiographie quand elle dérive vers quelque chose qui n'est pas de la fiction, car je maintiens la différence. Je suis un peu puriste de ce point de vue-là. Pour moi, il y a vraiment une différence entre la fiction et l'autobiographie, mais l'autobiographie doit être travaillée dans un sens, je dirais, stylisé, reconstruite, performée, accomplie, programmée. Et donc, voilà, elle doit passer notamment par des espaces concrets, matériels, sensibles. Et au fond, tout le livre est une espèce d'ode à la perception, même s'il y a aussi des aspects didactiques. On en apprend sur moi, mais on en apprend aussi sur le 18e. C'est quand même un livre qui, d'abord, je pense, remplit le contrat.
Ah oui, là, je pense qu'on en apprend vraiment beaucoup sur le 18e arrondissement.
Voilà. Il y a aussi un aspect historique, si vous voulez. Ce que j'aime beaucoup, c'est entremêler le moi et le social, le politique, l'affectif, tout ce qui est de l'ordre de la perception.
Alors, je reviens à ces performances,
oui.
parce que ça fait partie aussi des aspects peut-être les plus comiques, en tout cas les plus hilarants du livre, puisque ces performances sont souvent très ironiques, en réalité. Et il y a une performance, par exemple, « J'améliore ma ville
»,
où vous ramassez les choses pour les mettre à la poubelle, par exemple.
Oui.
Une autre, ou encore, qui consiste à dire « Je suis un touriste », et donc à parler avec un accent italien de Perrette, en demandant où est la butte, Montmartre.
Que j'ai pu vous imiter sans problème.
Voilà. La conversation littéraire. Mathias Sénard.
Est-ce que l'humour et l'ironie, la distance que ça fabrique avec la réalité du terrain était aussi partie importante du projet ?
Alors c'est une question très complexe en fait que vous posez là, parce que évidemment cette dimension d'humour et d'ironie est importante, je crois, enfin vous le soulignez vous-même. Je dirais de manière tout à fait contradictoire que par exemple la performance « J'améliore ma ville » part peut-être du sentiment complètement inverse d'une colère. Il y a un aspect polémique dans le livre, colérique, on pourrait dire, je dirais négatif, car la ville est présentée aussi sous ses aspects les plus saillants et les moins touristiques d'une certaine façon. Et donc, quand je fais la performance « J'améliore ma ville », qui consiste par exemple à arracher une affiche publicitaire qui me déplaît, ou à enlever par exemple voilà les publicités adhésives sur les pharmacies, il y a au départ, d'une certaine façon, une colère, un mécontentement profond de ce que devient la ville, par exemple une sorte de galerie marchande géante. Et donc, je vais quand même passer à l'acte. C'est un acte, évidemment, qui a quelque chose de parodique, en ce sens que c'est une amélioration extrêmement dérisoire, mais qui touche à un problème social et politique et urbanistique, finalement, très important, qui est de dans quelle ville voulons-nous vivre ? Et je crois que ça, c'est une question de citoyen. Et donc, d'une certaine manière, je mets la main à la pâte, un petit peu comme un peu comme les situationnistes autrefois s'amusaient à faire des gestes qui étaient plus ou moins parodiques, qui consistaient par exemple à nettoyer la voiture de la police. Vous voyez, dès que vous approchez d'une voiture, ça peut être compliqué. Mais si vous voilà, ou la performance moteur, par exemple, que j'aime bien faire, qui consiste à dire à quelqu'un d'arrêter de faire tourner son moteur parce que la ville pollue. pollue et que la pollution est un problème finalement très sérieux. Donc il y a ce mélange, je crois, enfin j'ai essayé d'aborder la ville avec cette double facette qui me correspond assez, je crois. Il y a un esprit effectivement humoristique et ironique, mais il y a aussi quand même un aspect, je dirais, de contestation assez forte.
Oui, de critique sociale aussi, et même dans la description même de Paris, c'est-à-dire que tout n'est pas beau dans le 18e arrondissement. Par exemple, vous écrivez ceci, « Touriste, tu peux éviter le boulevard Ornano, moi pas. »
Oui, voilà. Oui, exactement, je m'adresse effectivement à ce touriste qui ne viendra jamais sur le boulevard Ornano. Bon, moi j'habite moi-même un quartier où il n'y a pas de touristes. D'ailleurs, c'est très agréable. Contrairement à la rue des Abbesses qui est devenue une espèce de hall d'aéroport comme presque tout ce qu'on appelle aujourd'hui malheureusement Paris-Centre. Donc il y a aussi, si vous voulez, une sorte de contestation. J'aimerais bien que les citoyens finalement reprennent en main leur ville sans qu'on leur dise ce qu'il faut qu'ils fassent. Et ça, je trouve que c'est un peu à la portée de tout le monde. Si évidemment les gens avaient cette conscience de vivre dans un environnement. Alors, il y a vraiment un décalage aujourd'hui entre les injonctions à un environnement meilleur et en fait le fait que les gens, disons, ils s'en fichent un peu, quoi, en fait. Et donc, je trouve que le travail de l'écrivain, de ce point de vue-là, est un travail qui est à la fois littéraire, mais en même temps qui débouche sur une action, et notamment, par exemple, sur cette contestation du tourisme, du surtourisme. Quand on habite à Montmartre, il est évident qu'il y a des passages assez satiriques dans le livre contre cette invasion touristique. Hein. Ce ne sont pas les pauvres qui me dérangent, ce sont les touristes. Donc, vous voyez, il y a quand même des choses à recadrer, disons.
Et alors, bon, il y a des notations intitulées performance, et puis il y en a d'autres aussi, méthode, par exemple. Hein. Il y a des questions de méthodologie dans le livre, et notamment, par exemple, méthode 2 points. Wikipédia vous renseignera, je n'écris pas un guide du 18e arrondissement.
Oui, c'est une question importante parce qu'aujourd'hui, je crois que ça concerne un peu tous les écrivains lorsqu'ils veulent se documenter sur quelque chose. Alors, ils utilisent Wikipédia, et c'est très bien, moi-même je l'utilise aussi, mais je refuse évidemment de faire un roman Wikipédia, comme je trouve que certains collègues en font, parfois.
Moi, donc... je fais ça, moi, par exemple.
Ah non, je ne visais personne en particulier. Non, mais je veux dire que, vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire, au fond, il faut quand même s'approprier la matière documentaire avec distance, quoi. Même si on est obligé d'en passer par là. Et en tout cas, effectivement, je n'écris pas un guide du 18e, c'est un guide totalement subjectif, mais c'est en même temps quand même aussi un guide quelque part. Enfin bon.
Mais oui, alors ce serait un guide dans lequel on pourrait se perdre.
Voilà.
Puisque justement, les choses ne sont pas guidées au sens où il n'y a pas de parcours tracé, fléché.
Tout à fait. Puisque je découvre moi-même, au fond, les rues au fur et à mesure. Les guides évitent toujours la négativité. Alors que la littérature, pour moi, a parti foncièrement avec la négativité. C'est-à-dire, avec La Chapelle n'est décrite dans aucun guide du 18e arrondissement.
Oui, mais en même temps. L'exhaustivité va contre le guide, c'est-à-dire que le fait d'être exhaustif, ça vous écarte déjà du guide par définition.
Oui, c'est vrai qu'il y a dans le fantasme d'exhaustivité un fantasme proprement littéraire, je pense, en ce sens que l'écrivain voudrait reconfigurer le monde à sa vision, quoi. Et donc effectivement, décrire l'intégralité du 18e, il y a des tas de quartiers dans le 18e ou de rues qui n'ont aucun intérêt objectif. Et j'aime beaucoup d'ailleurs ces rues sans intérêt objectif. Vous voyez la difficulté, il est plus difficile en un sens de décrire des rues dans lesquelles il ne se passe rien, où il n'y a aucun monument particulier. Enfin, ce sont des types de problèmes différents. La butte Montmartre, en revanche, elle est écrasée par ce monument. Il y a une dimension culturelle. On peut toujours se raccrocher à certaines choses. J'aime bien aussi ce contraste entre l'ordinaire des rues populaires ou neutres, et puis le caractère hyper riche et connoté, pour le coup, culturellement, du 18e, avec ses artistes, ses chansonniers, son music hall, ses acteurs, ses écrivains. Etc.
Oui, mais justement, ce n'est pas la profondeur historique qui vous importe. C'est-à-dire que c'est assez rare que vous dites, à tel endroit, s'il n'y a pas une plaque, vous n'allez pas nous dire, tel a vécu là, ceci ou cela. C'est pas tellement ça qui...
Enfin, parfois, j'aime bien introduire ce que j'appellerais de la contre-histoire. C'est-à-dire, rappeler, par exemple, que les généraux de la commune étaient généralement des étrangers. Alors ça, c'est dans la rue Mirard, par exemple. Le général Dembrowski, je crois, qui meurt à un point précis de la rue Mirard, en pleine goutte d'or. Et donc là, à ce moment-là, je rappelle finalement ce fait, tout simplement parce que au lieu de parler de l'histoire de la commune comme un historien que je ne suis pas, je préfère tirer un élément qui tout à coup me frappe, à savoir que dans ce quartier où il y a essentiellement des étrangers, ce quartier est lié historiquement à un épisode quand même fondamental de l'histoire de France qui est la commune et qui a été donc en grande partie défendu. Enfin, les généraux de la commune étaient presque tous des étrangers ou alors des marginaux comme Rossel, par exemple, qui était le second officier d'état-major français à avoir rejoint la commune. J'aime beaucoup cette espèce de micro-histoire, aussi d'histoire parallèle. qui permet un petit peu de sortir un peu des sentiers battus du côté, bon, Picasso, Renoir, le Moulin de la Galette, quoi, vous voyez. Il y a toute une contre-culture aussi à Montmartre qui est très importante.
Alors Thomas Clerc, on pourrait croire que c'est un Paris musée du 21e siècle d'aujourd'hui qui se passe entièrement dans ses rues, mais il y a aussi une performance, entre guillemets, ou une didascalie intéressante qui va au-delà de ça, qui est le franchissement de seuil.
Oui.
C'est-à-dire que souvent, vous décidez de rentrer dans un immeuble, de franchir le seuil d'un immeuble pour aller voir une cour ou tout simplement par curiosité.
Tout à fait, tout à fait. Oui, ça c'est une borne, une des choses qui reviennent assez souvent. Et alors, c'est pas forcément un immeuble, ça peut être un magasin où je n'ai rien à faire.
Oui, voilà, ouais.
Je pense tout à coup, là, au boulevard Barbès, il y a un supermarché de jouets d'enfants, par exemple. Alors bon, moi je n'ai pas d'enfants. Ça m'intéresse d'y aller précisément parce que je vais à ce moment-là lutter contre moi-même. La borne franchissement de seuil, elle m'intéresse en ce sens qu'elle m'oblige à faire quelque chose que je ne ferais pas naturellement. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, je suis en fonction écrivain quand j'écris le 18e et je vais prendre un thé à la menthe dans un café où il y a 100% d'arabes et qui par conséquent vont me regarder comme un extraterrestre. Mais j'aime bien cette idée finalement de faire quelque chose, de déplacer les activités naturelles où ça peut être effectivement juste m'obliger à regarder par exemple l'immeuble 39, comme j'ai un chiffre fétiche qui est 39, à chaque fois je regarde ce qui se passe dans le 39. Mais vous voyez, faire des micro-actions qui d'une certaine façon vous déplacent en ce sens que la littérature est le contraire de la spontanéité, en ce sens qu'elle vous oblige, et notamment le type de littérature que je défends, hein, un peu programmatique comme ça, qui vous oblige à vous déplacer physiquement et mentalement, évidemment, par rapport à vos attendus.
Puisqu'on parle du programme, c'est quand même une masse d'informations et de textes assez gigantesques. Et alors concrètement, est-ce que vous avez une grande carte du 18e où vous assurez les endroits où vous étiez passé, vous conservez des notes? Ça m'a l'air assez complexe à organiser,
oui,
en réalité.
Oui, oui, c'est, je me suis un peu perdu au départ, c'est qu'à le dire. Et puis ensuite, j'ai un peu rationalisé, c'est-à-dire j'ai fait quartier par quartier. Effectivement, je fonctionne avec un plan, des photocopies de plans par quartier, et puis je stabile au boss. Et puis surtout, je prends des notes dans la rue, en fait. Quand je décide de faire telle rue, je prends des notes et assez vite, je rentre à la maison pour réécrire les notes, pour les styliser, pour les rendre, sous forme de livre, quoi. J'aime beaucoup cette idée de passer assez rapidement de la rue au bureau, car je suis sorti du bureau pour pouvoir justement rencontrer un autre monde que toujours le monde de la posture assise. Et donc mon livre est comme une apologie de la marche et de la liberté. Et donc à ce moment-là, il faut quand même que l'encre sèche, pas trop. Enfin, il faut qu'il y ait encore cette espèce de fièvre de l'excitation, de la promenade, pour pouvoir maintenir une sorte de fraîcheur dans le livre ou de dynamisme.
Et précisons, Thomas Clerc, que Paris Musée du XXIe siècle, c'est aussi l'actualité, mais avec un aspect assez poétique. Bon, déjà, on peut trouver la rue que l'on cherche à la fin. Il y a un index, hein, pour ceux qui cherchent à savoir ce que vous dites de telle ou telle rue. Fort heureusement, on peut aller directement là. Mais il y a aussi une espèce de poésie qui s'installe, une poésie parfois étrange. Par exemple, rue Eugène Carrière, pendant que je suis cet homme, la rue Eugène Carrière meurt sur le mur.
Oui.
Parce qu'elle meurt sur le mur du cimetière.
Absolument, oui, tout à fait. Oui, il y a une vision tout à coup, oui.
Et donc, il y a une espèce de fait poétique dans la langue, dans la façon de voir la ville, complètement transformée, qui fait aussi de Paris, musée du XXe siècle, quelque chose, à mon avis, un sommet aussi poétique.
Mais écoutez, je vous remercie, ça me fait très plaisir. L'une des deux épigraphes du livre est quand même placée sous Nerval. Nerval, il y a une rue Gérard de Nerval qui est une rue absolument horrible. Dans les immeubles 70, à côté du marché aux puces et surtout du périphérique. Et là justement, il y avait une espèce de poésie paradoxale que j'ai voulu rendre hommage à Nerval, qui est un poète que j'aime énormément, puisqu'il dit bien, il n'y a pas de propriétaire au but Montmartre. Je trouve ça assez beau, cette idée que finalement la ville est quand même un espace de liberté. Bon, c'est un peu cliché de dire ça, mais ça reste quand même... Le fait simplement de se promener dans la rue est encore une des rares activités non immédiatement payantes, j'ai l'impression. Enfin, globalement, on peut encore être un peu libre de toute injonction à la consommation ou à la communication. Et donc, c'est peut-être cette dimension poétique aussi, et effectivement, qui passe par un travail de la langue. J'aime surprendre aussi le lecteur. J'aime adopter des tons très différents. Tout à l'heure, je vous disais que je me définis comme un écrivain de variété. Il y a un côté à la fois sérieux, ludique, autobiographique, politique, social, affectif, perceptuel. Il y a des poèmes de Cite. Enfin, j'aime beaucoup cette idée d'un mélange. Pour moi, la ville, quand même, précisément au moment où elle est de moins en moins mélangée, à cause de l'évolution sociale que l'on connaît bien, notamment à Paris, eh bien, je plaide au contraire pour une ville, voilà, du mélange, mais que ce mélange peut aussi être activé par chacun d'entre nous.
C'est ce que vous montrez d'ailleurs, que le 18e arrondissement, cela est un arrondissement extraordinairement mixte, encore
oui.
Toute sa partie nord,
tout à fait.
Celle qui touche justement à la banlieue, oui. Dans laquelle nous allons nous rendre avec Anne Weber, est elle aussi extrêmement populaire.
Oui, oui, le 18e arrondissement est encore un vrai quartier, on pourrait dire. D'ailleurs, à un moment où je dis j'habite un vrai quartier, mais il est trop vrai. Quand ça me fatigue un peu aussi dans un quartier populaire, il ne faut pas non plus voir aussi les aspects simplement idylliques de la chose. Le 18e reste finalement un endroit où vous avez les quartiers bourgeois à l'ouest, les grandes carrières, et puis les quartiers populaires que sont la Goutte d'Or et la Chapelle, là où j'habite, et puis le quartier neutre de Clignancourt, qui est une sorte de quartier finalement de, voilà, là où il y a les institutions, la mairie, etc. Donc c'est quand même intéressant parce qu'il reste, disons, une certaine forme de diversité parisienne, pour combien de temps, je ne sais pas, mais qui change beaucoup des quartiers évidemment très centraux maintenant, qui sont complètement homogènes. Je déteste l'homogénéité, c'est quelque chose qui me fait peur, ça me terrorise, je suis contre l'homogénéité, et la littérature finalement pour moi est le domaine de l'hétérogène.
Alors, à la fin, à la toute fin, j'en parlais tout à l'heure, de Paris, musée du 21e siècle, Thomas Clerc, c'est l'index. Et c'est assez fascinant de se rendre compte de tous ces noms. Ça fait une foule, un peu, une foule de personnages oui. dans l'onomastique, hein, qui est quelque chose aussi qu'on va retrouver oui. Chez vous, Anne Weber. C'est assez fascinant de se dire que finalement tout cela, ça se passe avec des noms.
Oui, oui, il y a cette
idée. Des noms de personnages,
oui,
qui sont à 98% des hommes d'ailleurs.
Oui, enfin j'ai essayé un petit peu quand même de
Non, les noms des rues.
Ah oui, les noms des rues. Ah oui, les noms des rues, bien sûr. Oui, les noms des rues, ça, je ne suis pas responsable des noms des rues, mais bien sûr, oui, il y a cette idée que le monde est dans la ville, que finalement le 18e est une ville monde. Paris reste une ville monde. Le 18e est une ville particulièrement monde, et donc il faut pouvoir intégrer tout cela dans le territoire.
Alors Chirac, par exemple, c'est tout à fait net. Pendant la première mandature de Jacques Chirac, il est tout à fait évident qu'il a subi la pression des milieux de ses amis politiques et qu'il y a eu toute une série de résistants ou de gens qui étaient partis à Londres chez De Gaulle, donc de gaullistes de la première heure, qui sont passés dans les rues de Paris. Alors on a eu Dornano, Michelet, Koenig, Monclar... Piobetta, qui était un jeune lieutenant, mais qui s'est illustré, Moranda, de la Vigerie, etc. Donc une bonne vingtaine, plus des noms d'événements. Alors d'événements ou de lieux. L'île de Sein, qui était la première île à envoyer tous ses hommes à Londres. La conférence de Brazzaville. Alors on a eu une rue de Brazzaville qui ne se référait pas du tout à la capitale de l'ex-Congo français, mais à la conférence de Brazzaville ou de Gaulle, etc. On a eu les insurgés de Varsovie, le maquis du Vercors, le serment de Koufra, etc. Donc c'était politique. Et puis dans la deuxième mandature, le stock étant peut-être un peu épuisé, Chirac s'est rendu compte qu'il manquait des poètes. Et vous savez, le goût qu'affichait, et qu'affiche toujours d'ailleurs le président, pour la poésie et les poètes. Et on a eu toute une série de 22 poètes qui ont commencé à fleurir sur les murs de Paris. Alors on a eu Pierre-Emmanuel, Pierre-Jean Jouve, Reverdy, Desnos, Saint-Jean-de-Perse qui n'avait toujours pas sa rue, Éluard et Aragon qui ne l'avaient pas non plus. Et là, il n'était plus question de politique, il était question de poésie. Marie-Laurencin, Supervielle. Alors on a eu Brassens à cet égard, qui a été considéré non plus du tout comme un chanteur, là, mais comme un poète. Par le maire, Francis Jammes, Garcia Lorca. Dans les conditions pour avoir son nom sur les rues de Paris, il faut tout de même, d'abord, comme on le disait, être mort depuis 5 ans, être relativement illustre ou avoir laissé quelque chose. Et il faut quand même que le personnage ait eu un rapport direct avec Paris. Ou qu'il ait vécu à Paris, ou qu'il ait écrit sur Paris, ou qu'il ait peint Paris, ou qu'il ait passé une partie de sa vie ou de sa carrière professionnelle à Paris. Et donc il y a beaucoup d'illustres étrangers qui ne figurent pas sur les rues de Paris, tout simplement parce qu'ils sont restés chez eux.
Nous venons d'entendre l'écrivain Marc Ambroise rendu dans un lieu de mémoire de 1997 sur France Culture. On voit le parcours compliqué de l'aspirant à une rue de Paris. Anne Weber, dans le 9-3, enfin le 93, le département de la Seine-Saint-Denis que vous arpentez, là aussi l'onomastique est très importante, mais elle se répète, puisqu'il s'agit de plusieurs municipalités, celles que vous croisez, elle se répète souvent, mais il y a quand même des thématiques. En tout cas, vous y êtes aussi assez sensible.
Je suis sensible en particulier au nom des rues, au nom aussi des institutions devant lesquelles je passe, parce qu'il me semble que ces rues et ces institutions ne sont pas les mêmes à Paris et dans le 93. Et par exemple, à un moment, ces deux marcheurs, puisqu'ils sont à deux, ces deux marcheurs passent devant un petit gymnase à la Courneuve qui s'appelle Bougara El Wafi. Et là, la narratrice qui me ressemble s'interroge sur l'histoire et l'identité de ce personnage dont elle n'a jamais entendu parler. Et parce que dans Paris, il y a peu d'institutions publiques qui ont des noms arabes. Et elle découvre que c'était un coureur marathon qui a gagné la médaille d'or en 1928 à Amsterdam, etc. Et ensuite, ils se mettent sur la trace de ce personnage. Ils vont jusqu'au cimetière musulman de Bobigny où il est enterré. Les noms de lieux donnent lieu à des interrogations, des recherches. Et il y a beaucoup de dialogues dans ce livre, à des discussions entre ces deux marcheurs qui ont la particularité d'être d'origine différente et d'avoir des histoires et des positions très différentes.
Anne Weber, vous nous l'avez dit, vous êtes parisienne de longue date, et là vous décidez, enfin, du moins c'est comme ça que commence ce roman itinérant, à suivre, en tout cas la narratrice, suit un de ses amis à travers le département de Seine-Saint-Denis. Donc elle quitte Paris, prend le RER à la gare du Nord et se rend dans la cité dite des 4000 à la Courneuve, à quelques stations de la gare du Nord. Ce texte est sous-titré, donc le 9-3, le livre tel qu'il est publié, est sous-titré « Roman itinérant ». Et qu'est-ce que vous entendez par là? Ça aurait pu être récit de voyage ou pas? Est-ce qu'il y a une différence pour vous entre le récit de voyage 9-3 ou le roman itinérant 9-3?
Alors, vous l'avez dit en introduction tout à l'heure, j'écris toujours mes livres deux fois. Enfin, j'écris deux versions de mes livres, une en allemand qui a paru il y a un an en Allemagne déjà, et qui s'appelait, qui avait pour sous-titre « Ein Roman in Streifzügen », c'est-à-dire un roman en français, il faudrait un nombre, en 18 déambulations ou en 18 balades. Et c'est un peu l'équivalent que j'ai trouvé, roman itinérant, c'est-à-dire qu'il y a 18 chapitres et chaque chapitre est une... Alors, je n'ai pas trouvé le... Je n'aime ni tout à fait balade, ni tout à fait déambulation, parce que je n'ai pas trouvé tout à fait l'équivalent du mot allemand Streifzug, qui va plutôt du côté de l'errance. Il y a un côté absolument non systématique et non méthodique dans ces marches. C'est un zigzag et souvent un zigzag sans but. La plupart du temps, c'est un zigzag sans but. C'est des marches qui ne cherchent pas à épuiser un territoire, mais qui sont par contre très épuisantes physiquement, parce que ces deux marches dans des coins qui ne sont pas faits du tout pour la marche. C'est des marches qui sont à la fois épuisantes physiquement et éprouvantes, je dirais aussi par moments moralement, parce qu'il y a des mises en question, une mise en question qui s'opère, parce que bon, il faut commencer peut-être par dire qui sont ces deux qui se promènent là. Il y a donc cette narratrice qui me ressemble.
Et à la première personne, oui, voilà.
Et à la première personne, il y a un ami qui l'accompagne et qui lui sert un peu de guide, puisque lui, il est né dans le 93, il a toujours vécu là, il y vit toujours. Et lui propose, si elle veut pas l'accompagner une fois, parce qu'il marche beaucoup là-bas, et c'est ce qu'elle fait. Et là, il y a une sorte de choc qui advient, pas tellement face à ce qu'elle voit, mais face à sa propre ignorance et à son propre manque de curiosité jusque-là pour ces lieux qui sont, après tout, qui commencent juste au-delà du périph, donc à deux stations de métro de chez elle.
Mais pourquoi roman, alors?
Alors, roman...
Parce que pour moi, roman, enfin, on imagine en tout cas qu'il y a quelque chose de l'ordre du romanesque, c'est-à-dire qu'il met en jeu une forme de fiction ou peut-être un récit de ce qui pourrait être une aventure. Alors, est-ce que c'est pour vous le sens que ça prenait, ce roman itinérant?
Vous admettrez que la notion de roman s'est beaucoup élargie au fil des temps. D'ailleurs, c'est un point commun avec Thomas Clerc. On n'est pas ni l'un ni l'autre dans le roman conventionnel avec une trame narrative très définie. Mais je l'ai quand même appelé roman ce livre parce que il y a une partie fictive qui vient entre autres du fait que cet ami marcheur, c'est un ami réel que j'ai dans la vraie vie. Et au départ, je voulais raconter son histoire, l'histoire de ses origines, parce qu'il m'a montré aussi les lieux de son enfance, etc., pendant qu'on marchait.
Ossine, donc ça s'appelle.
Ossine dans le livre. Et au moment où j'ai voulu me mettre à écrire, tout à coup, il m'a dit que ça le gênait, que vraiment, il préférait que je ne raconte pas sa vie. Ce qui m'a un peu interloqué sur le moment. Puis j'ai compris, parce qu'il a une histoire très douloureuse et j'étais bien obligée de l'accepter. Du coup, j'ai raconté une autre histoire, une histoire qui a des similitudes avec la sienne, mais qui n'est pas la sienne. Et ça m'a obligée à déplacer un peu le focus et à mettre au centre du livre, non pas une histoire, une biographie, et en plus de l'exploration des lieux, mais cette confrontation de deux points de vue. C'est un territoire, un département. Ce sont des lieux vus à chaque fois à travers deux pères Dieu. Et tout est dans, pour moi c'est très important, tout est dans cette confrontation de points de vue. Ça devient un peu un jeu de rôle dans le livre, mais il y a la narratrice qui se retrouve dans le rôle de la Parisienne, enfin qu'elle n'est pas vraiment puisqu'elle est comme moi d'origine allemande, etc., mais vivant à Paris, blanche européenne, et il y a le franco-algérien né dans le 93, et donc... Il y a ces rôles qui s'établissent et qui définissent aussi des points de vue forcément différents sur ce qu'ils voient. Et il y a aussi des frictions qui naissent de cette confrontation de points de vue. Mais moi, il m'a semblé que c'était justement ces deux points de vue qui s'affrontent qui sont intéressants, que ce ne soit pas mon unique point de vue, mon unique perspective.
Puisqu'on est un peu dans ce qu'il y a autour du texte, le paratexte, pour dire un mot un peu cuistre, et on parlait de roman itinérant, le titre 9-3, est-ce que c'est que Victor Hugo vous a volé 93?
Ah, c'était que déjà pris, pas...
oui, c'était déjà pris. Parce que ça aurait été pas quand même, 93 pour un roman, où justement il est question aussi de, pas de révolution, mais néanmoins, quand même, il y a un aspect aussi très, très politique, on va y venir.
Mais pour revenir juste un instant sur le terme de roman... Je pars aussi de l'idée que quand on écrit quelque chose, même quelque chose qui vous est arrivé, le fait de l'écrire le rend fictif. Enfin, ça n'est plus ce qui vous est arrivé. Et quand on écrit « je », ça n'est pas soi. D'ailleurs, c'est souvent les éditeurs qui aiment mettre « roman » sur les couvertures de livres. Moi, j'évite souvent. Le précédent, c'était une épopée écrite en vers libre. Mais souvent, les critiques faisaient comme si c'était un roman. Mais là, pour une fois, j'ai écrit « roman ». On me dit, est-ce que c'est vraiment un roman? Donc, moi, je n'aime pas penser dans ces catégories très strictes. C'est pas non plus un roman, c'est roman itinérant. Voilà.
Un roman, donc, de banlieue. Et justement, là, ça commence, comme on le disait, par, on prend le RER Gare du Nord et on atterrit à La Courneuve, dans cette cité des 4000. Et il y a quelque chose qui, pour moi, ne résume pas, mais en tout cas donne un peu la couleur du texte. C'est vous êtes dans cette cité, vous entendez pour la première fois la réalité du son des guetteurs, de leurs cris, et vous expliquez, ce sont des chants plaintifs et polyphoniques. Et finalement, c'est un peu ça qu'on va retrouver tout au long du texte. Ce sont des chants plaintifs et polyphoniques, pas du tout nécessairement de guetteurs, mais néanmoins, c'est comme un ensemble de voix qui sortiraient comme ça des bâtiments que vous arcantez, des noms, des personnages, des rues, des athlètes oubliés ou des rencontres que vous faites. Est-ce que c'est un roman peut-être plus de voix presque que de réalité urbaine?
Oui, il y a aussi un autre lieu très important dans le livre qui revient régulièrement. C'est un café sur lequel les deux tombent au début. Et c'est un lieu extraordinaire parce que c'est un lieu d'accueil, c'est un lieu de rencontre de toutes sortes de gens différents, des vieux, des jeunes, des Français, des pas Français d'origine, des pas Français tout court, des femmes aussi et des hommes. Et là, s'instaurent des liens avec ces habitués du café. Et il y a en effet une sorte de polyphonie des voix qu'on entend régulièrement et qui s'ajoute aux voix des deux marcheurs.
Alors, il faut dire que la zone géographique de ce 9-3 correspond au nord du département de la Seine-Saint-Denis, dans la ville même de Saint-Denis en grande partie. Il y a un peu un petit bout à Pantin, si je me trompe pas. Mais on n'est pas du côté de Montreuil, ce qui aurait sans doute donné un livre peut-être un peu différent. Est-ce qu'au départ, vous avez choisi un itinéraire, justement, ou alors c'est venu au fur et à mesure des déambulations avec Ossine?
Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a aucune méthode, il n'y a pas de quadrillage, etc. Mais il y avait la volonté au départ de mettre les pieds au moins une fois dans une des 40 communes du département. Donc c'est un territoire très très vaste. Et contrairement aussi à ce qui se passe sans doute dans un... Je sais pas, chez les gens qui font des reportages, ils vont quand même dans des endroits précis parce qu'il s'y est passé quelque chose, parce qu'ils ont une idée précise de déjà des lieux. Et en général, ils retrouvent un peu ce à quoi ils s'attendaient. Enfin, il y a quelque chose un peu de... Alors que là, on est dans la découverte et dans la surprise. Et c'est ce que j'aime aussi. C'est que... Évidemment, j'ai essayé d'y aller en ayant le moins d'a priori possible. C'est pratiquement impossible d'aller dans le 93 sans a priori, parce qu'on a tous lu des choses sur ce qui se passe là-bas. Et ce premier chapitre en est une illustration. Cette narratrice se trouve amenée tout de suite dans la cité des 4000. Elle entend les appels des chauffeurs, mais il y a dans sa perception de ces appels, il y a un point de vue... qui est d'ordre esthétique, enfin, parce que c'est beau à entendre. Elle se rend compte que c'est magnifique, en fait. Et c'est la première fois qu'elle entend ça. Il y a quelqu'un qui commence à un angle de rue, à un angle d'une barre, et puis à l'autre bout, quelqu'un répond, et puis ça se répercute dans tout le quartier. Ça devient comme une chorale. La question qui se pose, c'est est-ce qu'on a le droit de trouver ça beau ?
Écrivez très précisément « Je me demande s'il est seulement un peu ridicule ou carrément choquant de voir, ou dans ce cas précis, d'entendre de la beauté là où d'autres, la plupart des habitants de la cité sans doute, qui ne peuvent pas se permettre de vivre ailleurs, ne voient que menaces et nuisances. »
Oui, c'est tout le problème quand on est un peu un corps étranger comme ça, quand on est quelqu'un qui n'est pas un habitué des lieux, qui débarque et qui vient avec ses propres habitudes de perception dont il faut essayer de se débarrasser d'ailleurs, mais est-ce qu'on a le droit de simplement poser un œil d'esthète ou de prêter une oreille de musicienne à ces chants qui sont quelque chose d'existentiel pour les gens sur place, qui vivent là? C'est des questions qu'on se pose. Enfin, il y a tout le livre était pour moi quelque chose d'extrêmement... Enfin, le livre lui-même et la préparation à ce livre, c'est-à-dire ses longues marches et ses discussions avec cet ami, quelque chose d'extrêmement inconfortable parce que j'ai dû assumer un rôle qui m'a été attribué, enfin, qui est le mien, si on veut, c'est-à-dire le rôle, justement, de l'européenne blanche privilégiée. Parce que ces rôles... C'est en principe le bon rôle. Du point de vue matériel, c'est pas mal d'être blanc et privilégié. Mais du point de vue moral, ces rôles s'inversent. Et donc ça devient moralement le mauvais rôle. Et cette narratrice est tout le temps renvoyée à cette identité-là. Elle essaye de se défendre de ça. Mais peut-être qu'il y a quelque chose de... Je pense qu'il y a quelque chose aussi qui... Dans le fait d'assumer ce rôle-là, il y a quelque chose peut-être qui fait qu'en tant qu'Allemande, je suis habituée à être du mauvais côté de l'histoire et à avoir le mauvais rôle, moralement. Alors qu'en France, je me demande si...
Mais c'est peut-être
si
aussi...
un narrateur français, une narratrice française aurait réagi de la même façon. Parce que les Français, selon moi, sont plutôt... Enfin, il ne faut jamais parler dans des termes génériques comme ça, c'est idiot, mais disons que, en plus, du côté de la révolte et de la colère, mais assumer qui on est, c'est pas... Enfin, d'après moi, il ne suffit pas de se dire du côté des opprimés pour l'être, hein, et pour...
Mais justement, c'est peut-être aussi un peu le territoire qui veut ça.
Oui,
c'est-à-dire que le
forcément.
Territoire est plein aussi de ce contraste ou de ces contradictions-là. Par exemple, quand vous allez au Bourget, à la Galerie Gagossian, c'est exactement dans cet endroit-là où là, tout s'inverse. C'est-à-dire que ce sont des Blancs extrêmement privilégiés qui vont dans la galerie et dans ce hangar à côté de l'aéroport du Bourget pour voir des statues qui sont trop grandes pour être exposées ailleurs et peut-être directement les acheter en venant en jet privé. Donc c'est aussi le territoire en lui-même qui fabrique aussi cette culpabilité, ces contradictions.
Faut dire que c'est vraiment un territoire de contraste, parce que juste de l'autre côté de la rue, juste à côté de cette galerie, enfin, d'un côté il y a l'aéroport actuel, encore l'aéroport du Bourget, qui est maintenant, où il n'y a presque plus que des jets privés qui décollent, mais de l'autre côté, face arrière de ce bâtiment, Il y a une petite cité des années 30, intéressante d'ailleurs architecturalement, mais qui n'est pas comme la cité des 4000, mais qui est une cité, en mauvais état. Et d'ailleurs, elle est séparée par la galerie, par une clôture grillagée avec des ouvertures, mais qui sont fermées. Donc, il faut faire un énorme détour. Je pense que c'est pour que les habitants de la cité ne viennent pas de ce côté-là. Enfin, je ne l'explique pas autrement. Et donc, il y a ces contrastes. Par exemple, à un moment donné, ça, c'est à la Courneuve, il y a une petite cité aussi. Tourne à un moment à droite, on tombe sur un temple hindou installé dans une ancienne manufacture avec un toit en dents de scie comme ça. Et après, tout de suite après, il y a un pont d'autoroute et on traverse le pont. Et là, on se retrouve face au bâtiment de la Banque de France actuelle avec des réserves d'argent les plus grandes d'Europe. Et tout ça, c'est dans un périmètre très réduit. Donc l'idée aussi, c'est de sortir de ces idées préconçues que je crois qu'on a un peu tous sur ce département. Parce qu'il y a des choses très diverses qui vont... là, j'ai dit des choses qui sont vraiment des contrastes, mais il y a d'autres sortes de contrastes, parce que ça va des bords de la Marne, hein, qui sont plutôt idylliques, jusqu'à l'île Saint-Denis. Il y a une infinité de choses à découvrir et c'est ce qui me faisait toujours me remettre en marche. Mais c'est pas seulement l'envie de découverte, c'est aussi il y avait quelque chose dans ce vis-à-vis, dans ce face-à-face avec cet ami qui demandait à être résolu, mais qui n'arrive pas à être résolu.
Ce qui frappe, Anne Weber, quand on lit 9.3, c'est aussi, vous parlez de la marche, l'impossibilité déjà faites aux marcheurs, non seulement alors de peut-être de rentrer dans des considérations ou de résoudre des choses plus complexes, mais déjà tout simplement de se déplacer à pied. C'est-à-dire que la marche même, la communication tout simplement à pied d'un endroit à l'autre est extrêmement compliquée. Vous tombez toujours sur des barrières, il faut faire des détours, des endroits où on n'ose pas trop, on ne sait pas trop même.
Souvent les noms de rues ne sont pas indiqués. Donc.
C'est assez des espaces qui sont finalement assez hostiles, même juste au simple fait de marcher.
Mais c'est un territoire qui est très coupé dans tous les sens par des voies de chemin de fer, des routes nationales, des autoroutes par exemple. À un moment donné, ces deux prennent une rue et puis je ne sais plus comment c'était formulé chez vous, Thomas, tout à l'heure, mais ça s'arrête sur un mur, je crois. Ça s'arrête sur un... pas sur un mur, mais sur l'autoroute. La rue est coupée par une autoroute et il y a un petit panneau qui indique les numéros de rue restants se trouvent de l'autre côté de l'autoroute. Et oui, vous voyez le détour qu'il faudrait faire pour arriver à l'autre moitié de la rue.
Oui, oui, effectivement, il faut oublier pas que le facteur se trompe de numéro.
Oui.
On suppose que le facteur sait, lui, en tout cas, où se trouvent ces numéros. Alors, il faut revenir sur le centre du récit, qui est ce café, le Marigny, donc le seul fréquenté par des femmes, en tout cas dans ce que vous croisez, le café de Rachid, qui est vraiment le centre du récit, parce que c'est là que se concentrent aussi toutes les histoires qu'on raconte dans 9.3.
Oui, ces deux tombent d'abord sur ce café, parce que c'est le premier café qu'ils trouvent, où il y a aussi des femmes, parce que quand on marche pendant des heures, quand on est une femme et qu'on a envie d'aller aux toilettes à un moment donné, il faut... Donc là, il y a des femmes, et c'est aussi quelque chose qui rend le lieu attirant, pour moi qui suis une femme. Et puis, petit à petit, mais c'est une lente approche, parce que il y a forcément de la méfiance vis-à-vis de ces personnages dont on voit bien qu'ils ne sont pas de là, qu'ils sont... Et qu'est-ce qu'ils viennent faire là, on se demande, etc. Et au fil du récit, il y a des liens qui se créent. Il y a toute une galerie de portraits un peu qui apparaît au fil du récit. Il y a l'homme qui ne parle pas. Il y a les joueurs de domino. Il y a la femme au serpent, la femme au piton. Chez elle, il y a vraiment une multitude d'hommes et de femmes. Il y a beaucoup de Français d'origine maghrébine, Mais il y a un ancien combattant français qui a combattu, enfin qui a été appelé pendant la guerre d'Algérie. Mais et tout ce petit monde se retrouve là sous l'œil bienveillant de Rachid, qui est comme un dieu protecteur, un peu. Et c'est un peu un îlot d'humanité au milieu, il faut bien le dire, d'un monde assez morose, assez morose.
Alors à la fin du texte, la narratrice se pose cette question. Mais pourquoi suis-je tout le temps fourré dans ces banlieues? Et alors, est-ce que vous avez... Parce que ça, c'est le début, apparemment, d'un projet. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on apprend à la fin, que vous aviez le projet de poursuivre ces déambulations. Et la question, voilà, qui revient, c'est pourquoi suis-je tout le temps fourré dans ces banlieues?
Mais parce que il y a quelque chose qui est de l'ordre du mystère qui subsiste. Pourquoi cette attraction? Et il y a quelque chose aussi dans ces lieux qui résiste. Il y a des choses que j'aimerais comprendre et que je n'arrive pas à comprendre. Et ça va de choses très matérielles que vous allez peut-être trouver ridicules. Mais par exemple, cette histoire de tonneaux en plastique noir que les gens ont sur les balcons. Je ne sais toujours pas pourquoi et qu'est-ce qu'ils y mettent. Mais c'est, on ne voit pas ça à Paris, mais nulle part.
Peut-être qu'il y en a rue Pajol dans mon coin aussi.
Oui, enfin.
Mais bon, c'est vrai que c'est pas. Oui,
c'est pas. C'est localisé, fréquent, disons. Vous êtes d'accord.
Oui.
Et mais vous savez ce qu'ils y mettent?
Je me demande si c'est pas des olives ou des choses comme ça.
Mais les olives, mais elles sont énormes.
Oui,
c'est...
Bon. Donc, ça peut être autre chose. Il y a de l'olive, mais il y a autre chose.
Il y a des auditeurs qui pourront nous renseigner. Mais ça, c'est anecdotique. Mais, oui. Mais il y a quelque chose qui résiste et qui me. Qui m'appelle dans ces lieux. Mais c'est aussi l'histoire d'une amitié, ce livre. Ça n'est pas quelqu'un qui explore tout seul. C'est vraiment une déambulation à deux. Et voilà, l'histoire d'une amitié et d'une confrontation de points de vue.
Merci beaucoup, Anne Weber. 9-3, roman itinérant, est paru aux éditions Philippe Ray. Et merci, Thomas Clerc.
Merci.
Le 18e arrondissement, Paris, musée du 21e siècle, est paru aux éditions de Minuit. La conversation littéraire est réalisée par Laure-Hélène Planchet avec Guillaume Ledu à la technique aujourd'hui. La préparation en est assurée par Aurélie Marsay. Nous nous retrouverons samedi prochain à la même heure. Mais d'ici là, vous pouvez bien sûr réécouter ou podcaster la conversation littéraire sur l'appli de Radio France et le site web de France Culture. Bonne lecture et bon week-end sur France Culture.